Je vous invite à vous lever, à lire un court passage dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 12. Bonjour à tous, Dieu vous bénisse. Voilà, Pâques est derrière nous. Les disciples ont vécu après Pâques des choses aussi. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Je vous ai parlé de la Pâque, de la résurrection, maintenant on va aller plus loin. Verset 12, Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Venez déjeuner. Venez vous nourrir. Aujourd'hui, l'invitation est toujours bonne. La parole de Dieu est une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu pour avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, la pensée de Dieu, la façon de penser de Dieu. Amen. C'est ça, avoir l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas avoir un truc qui est greffé en nous. C'est avoir son esprit, sa façon, comme il est lui. Alors vous vous souvenez, Jésus avait donné rendez-vous à ses disciples en Galilée. La semaine de Pâques donc était terminée, ils étaient restés à Jérusalem. Tout le monde avait trouvé un peu étrange qu'on ne voyait pas les disciples de Jésus dans la rue. Tous étaient cafeutrés dans leur chambre haute, ils restaient là, ils étaient apeurés. Puis mais il y avait aussi des lois, ils n'avaient pas le droit de marcher plus de temps, de kilomètres, de machin. C'était des lois hein, pendant la fête de Pâques, donc voilà, ils ne voulaient pas aller en Galilée là. Donc, étant soumis à la loi correcte, bon, ils ont attendu la fin de la semaine et puis ils sont partis tout réjouis en Galilée parce que là, quand même, ils savaient maintenant Jésus est ressuscité. En fait, ils étaient 7 à y aller. Ils n'ont pas été les 12, mais 7 sont allés, ils se trouvaient réunis là et ils sont allés jusqu'en Galilée. Oh, ils passaient complètement inaperçus. Ils n'avaient pas des grandes robes dorées avec des tiares. Hier, j'étais chez un antiquaire, il y avait un Saint-Pierre qui était là. Avec une tiare, avec des robes, des machins, on aurait dit, je ne sais pas, Louis XIV. Non, ils étaient habillés comme tout le monde, mais ils étaient riches dans la connaissance. Dans la connaissance et dans l'expérience de la vérité. Ils avaient quand même vécu plus de 3 ans avec Jésus, avec le Maître. Ils avaient appris, ils avaient pris des habitudes aussi de vie. Et ça, aux yeux des êtres célestes, que ce soit des bons ou des mauvais, eh bien, ça les classait dans le rang des grands maîtres. Des grands maîtres. Pourtant, vous ne payez pas de mine, hein. Vous n'avez pas étudié à l'école des prophètes. À l'époque, on disait école des prophètes, on ne disait pas école biblique. Vous n'avez pas été à l'école biblique, mais ils avaient été avec le plus grand instructeur, le plus grand éducateur que le monde a jamais connu. C'était avec Jésus, ça. Il n'y a personne qui a eu ce privilège, hein, par eux, puis quelques autres. Mais eux, c'était les fidèles de fidèles. Les initiés, comme on dit. Ceux qui avaient droit au message ésotérique. Hein, ésotérique, ça veut dire qu'ils avaient droit au message qu'on donne aux initiés. Exotérique, c'est ceux qui, c'était la foule, quoi. Ils entendaient les choses que Jésus disait à tout le monde. Mais eux, ils étaient les privilégiés, ceux qui entendaient les secrets, les choses profondes. Et grâce aux instructions qu'ils avaient reçues de lui, eh bien, ces disciples-là étaient devenus nobles, intelligents, cultivés. Ils avaient une culture maintenant, capables de conduire des gens aussi à la connaissance de la vérité. Mais ils n'en avaient pas tellement conscience parce qu'ils avaient tellement raté hein, pendant la crucifixion. Ils étaient complètement bouleversés. Ils se sentaient moins que rien. Et Jésus leur avait dit aux femmes, « Dites à mes frères que je les trouverai en Galilée. » Donc, ils vont en Galilée. Mais où ça en Galilée? C'est pas petit la Galilée. Il ne leur a pas dit devant la FNAC ou... Non, en Galilée. Bon, Jésus avait exercé la plus grande partie de son ministère justement au bord de la mer de Galilée. Donc c'est là qu'ils sont allés, ils se sont dit, bon ben on va le trouver certainement là, au bord de la mer, parce que c'était là en général que Jésus allait, hein. Il n'était pas scaphandrier comme Marc, mais il était quand même toujours au bord de la mer, il était toujours là. Et donc au bord de la mer, ils étaient assis et puis ils regardaient, et puis partout ils regardaient, ils se souvenaient des choses. Et tu te rappelles, c'est là qu'il nous avait tellement fait peur, oh, tu te rappelles la trouille qu'on s'est payé ce jour-là, Jésus était apparu. Puis ils marchaient sur l'eau, ils ont cru que c'était un fantôme, il y a eu une trouille terrible. Puis là-bas, tu te rappelles, c'était la plage où on avait fait cette super grande réunion, il y avait au moins 10 000 personnes. Oui, oui, je me rappelle, puis le gamin qui avait donné ses pains, ses poissons, oui, je me rappelle très bien. Jésus avait nourri tout le monde en faisant un miracle extraordinaire, c'était fantastique. Puis un peu plus loin, on voyait au bord de la mer Capernaum, là où Jésus avait fait tellement de miracles, Capernaum, si les miracles qu'il avait fait, qui ont été faits parmi chez toi, s'ils avaient été faits à Sodome et Gomorre se serait repenti, mais toi tu t'es pas repenti. Capernaum, il avait accompli des choses tellement. Enfin, partout où il regardait, il se rappelait de Jésus, les paroles qu'il avait dites, les choses qu'il avait faites. Et puis voilà, la journée se terminait, le soleil se couchait. On ne peut pas prendre de photos, mais c'était très beau. Hein, on avait envie de prendre des photos, mais il n'y avait pas d'appareil de photo à cette époque-là. Donc le soleil s'est couché sans qu'on prenne de photos. Mais c'était beau, il regardait ça, le soleil qui se couchait. Et puis Pierre dit, ah, et si on allait jeter les filets? Allez les frères, hop, on va jeter les filets. Et ils sont tous d'accord, ils étaient alliés à l'idée, parce que ce n'était pas une idée bête, ils avaient la dalle, ils avaient faim. Et puis, il fallait bien manger, hein. Et puis, non seulement il fallait bien manger, mais il fallait continuer à vivre, donc il fallait travailler. Et la pêche, ben, ils allaient pouvoir bouffer. Et puis ensuite, s'ils ramassaient un peu plus, ben, ils allaient pouvoir vendre et puis s'acheter des fringues. Il y avait justement Pierre, il s'était déchiré la tunique. Il avait vraiment besoin de s'acheter une nouvelle tunique. Et puis, voilà, donc, ils avaient le sens des affaires. Ils étaient pratiques, hein, ils étaient bouleversés, mais ils étaient quand même bien les pieds sur terre. Alors, ils mettent une barque à la mer. Et ils vont pêcher, mais ils prennent rien. Toute la nuit, ils rejettent leur filet, ça marche pas. C'est des losers, quoi, ça marche pas. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien. Pendant des heures, ils répètent ces mouvements. Ils savent pêcher, mais ça marche pas. Et pendant ce temps-là, ils pensaient, puis de temps en temps, ils parlaient aussi. On va devenir quoi? Sans Jésus, on va devenir quoi? C'est terrible, maintenant que Jésus n'est plus là. On va recommencer avec les filets, tout ça. On avait perdu l'habitude un petit peu, hein. On avait trouvé des belles mains blanches. Parce que vous savez, tirer les filets, ça fout en l'air les mains. Ça vous cisaille là. Ils avaient encore un peu de corne, mais bon, ça s'était bien attendri tout ça avec le temps. 3 ans, vous pensez, 3 ans. Alors, sur la grève, pendant ce temps-là, il y avait un veilleur qui se tenait solitaire. Et il suivait la scène des yeux en souriant un peu. Et il ne se faisait pas voir. Puis le matin est arrivé et la barque, lentement, revient. Ils sont bredouilles, ils sont à quelques dizaines de mètres du bord du rivage et ils voient un étranger qui est là et l'étranger leur crie « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?»« Non, non, on n'a rien !» C'est qui c'est celui-là? C'est qui? Et tout à coup, l'étranger dit: jetez donc le filet sur le côté droite et vous en trouverez. Ils avaient tellement pris l'habitude d'obéir en 3 ans avec Jésus qu'ils n'ont pas commencé à contester. Ils ont jeté le filet du côté droite. Quelqu'un leur avait donné un ordre. Ils faisaient... Bon, je me rappelle quand j'ai fait l'armée. Après l'armée, si on ne me disait pas de faire quelque chose, je ne faisais pas. J'attendais un ordre. Vous savez, on prend des habitudes comme ça. Obéir. Jésus dit, on fait. Hein, c'est comme ça dans l'armée, hein, Marc, c'est comme ça. Eh bien, avec Jésus, c'est l'armée du roi des rois. Et si Jésus dit, jette ton filet, tu jettes ton filet. Ils n'avaient plus Jésus, mais quelqu'un leur dit, fais ça, ben ils le font. Ils jettent encore le filet, parce qu'ils ont pris l'habitude d'obéir à ce qu'on leur dit de faire. Et il arrive quelque chose d'extraordinaire. Tous les poissons de la mer se précipitent dans le filet. Enfin, il y en a tellement qu'ils n'arrivent même pas à peine à retirer le filet dans le... Ça leur rappelle quelque chose, hein? Ça leur rappelle quelque chose. Alors, Jean regarde vers la plage. Et il regarde, il dit, mais c'est le Seigneur. Alors, Pierre, toujours aussi impétueux, il se jette à l'eau et il nage et il arrive devant Jésus. Il a les larmes qui se mélangent à l'eau salée de la mer. Les autres disciples arrivent ramant avec tout ça. Et quand ils sont à terre, ils voient qu'il y a déjà un brasier qui est là avec du poisson dessus et du pain. D'où viennent ces poissons? Je ne pense pas que Jésus est allé faire un filet, mais il a fait... Et hop, les poissons se sont trouvés là. Voilà. Et ils ne savent pas d'où ça vient, mais ces poissons sont là. Bon. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Bon, Pierre se précipite vers les filets parce qu'il avait abandonné les filets. Alors, il se précipite vers les filets pour aider les frères à tirer tout ça sur la plage. Et puis, quand tout est prêt, Jésus les invite à manger. Alors, ils mangent, mais ils n'osent rien dire. Ils n'osent rien dire. Il y a une crainte mystérieuse qui domine l'ambiance. Ils contemplent Jésus en silence, en regardant un peu par en dessous, parce qu'ils sont gênés. Alors ils se souviennent. C'est comme si c'était la veille. Ils se souviennent comment Jésus les avait appelés à le suivre. C'était là, hein? C'était là. C'était là au bord de la mer. Et puis, ils se souvenaient que, sur son ordre, ils avaient pris le large et puis ils avaient jeté les filets. Et il y avait eu une pêche miraculeuse. C'est comme ça que ça avait commencé. Après ça, Jésus leur avait dit, ils avaient invité, leur avait dit, maintenant quittez la barque et je vous fais une promesse, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. En fait, c'était pour leur rappeler cette scène que Jésus avait accompli à nouveau cette pêche miraculeuse. C'était pour leur rappeler quelque chose. Par cet acte, en fait, il renouvelait le mandat des disciples. La mort de Jésus n'avait en rien amoindri leur devoir d'accomplir l'œuvre à laquelle ils avaient été assignés. C'est comme ça qu'on dit, hein? Oui, c'est comme ça. Bon, la différence, il y avait une différence quand même, c'est que maintenant Jésus serait là, mais on ne le verrait plus. C'est la seule différence. Jésus est toujours avec vous, mais vous ne le voyez pas. Mais il est là. Aussi longtemps qu'ils accompliraient son œuvre, ils pourvoiraient à leurs besoins. C'était le pacte. C'était le pacte. Il leur avait dit, jetez vos filets à droite. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. La droite, c'est le côté de la foi. Je ne parle pas de politique. Hein. La droite, c'est le côté de la foi. C'est-à-dire, c'est la main agissante, celle qui est habile. Bon, je n'ai rien contre les gauchers, je les aime de tout mon cœur, mais il faut quand même reconnaître qu'en majorité, on est droitier. Hein. Donc, la droite, dans la Bible, le symbolisme, c'est l'action précise, l'action intelligente, l'action habile, l'action. La foi, sans les œuvres, elle est morte. Tu peux dire, je crois, mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, si tu agis avec ta main gauche, c'est foutu. Donc, il faut jeter du côté droite. Donc, ça veut dire que tant qu'il travaillerait correctement en communion avec lui, c'est ça que ça veut dire, qui est lui-même assis à la droite du Père, eh bien, sa divine puissance, s'ajoutant à leurs efforts humains, leur assurerait le succès, l'abondance et toutes ces choses. Mais travaille d'abord, avec la main droite, obéissance. Jésus était donc assis avec eux, et il mangeait avec eux. Le soleil se levait, commençait à faire... C'était beau, encore des photos. Dommage qu'il n'y avait pas d'appareil photo. Vous vous rendez compte, on aurait les photos. Mais bon, il n'y avait pas de photos. Personne n'osait entamer la conversation. Personne n'osait rien dire. Et Jésus voulait leur donner une leçon. Jésus, c'est un donneur de leçons. Il voulait les titiller un petit peu. Et spécialement Pierre. Alors, Pierre, rappelez, il avait honteusement renié le maître. Il s'était mis donc en contradiction avec son ancienne profession de fidélité. Il s'était engagé à le suivre. Il l'avait déshonoré. Et en fait, ce qui était grave, bon, lui-même, il ne se sentait pas bien, mais surtout ce qui était grave, c'est qu'il avait perdu la confiance des autres, des frères. Renié. Il avait trahi son mandat. Alors, avant d'être appelé à nouveau à l'œuvre apostolique, eh bien, il devait donner des preuves de sa repentance. Il devait donner des preuves. Sans cela, son péché, malgré ses larmes, son péché aurait neutralisé l'influence qu'il devait avoir en tant que ministre de Jésus-Christ. Alors Jésus lui donne donc une occasion de regagner la confiance de ses frères, de se repentir. Et ici, c'est ce que nous faisons aussi. Écoutez mes dernières prédications. C'est toujours ça, toujours redonner une chance. Mais il faut la saisir. Jésus donne donc l'occasion de regagner la confiance de ses frères, de laver, dans la mesure où ça c'est possible, la honte qu'il avait jetée sur l'Évangile. Et cette leçon, mes frères et sœurs, qu'il donne à Pierre là, ce jour-là, c'est une leçon qui s'adresse à tous les disciples, parce qu'un jour ou l'autre, on n'est qu'humain, hein, on commet des erreurs, on perd la confiance des autres, on fait des bêtises, qui n'en a pas fait lever la main. L'Évangile ne fait aucune compromission, ça se dit aussi ? Non, ça se dit pas. Aucun compromis avec le mal, aucun compromis, aucun. Il ne peut excuser le péché, jamais. L'Évangile n'excuse pas le péché, jamais. Les péchés, ils doivent être confessés. S'ils sont secrets, ils doivent être confessés dans le secret. Ça, c'est ce que je pense. Et puis, s'ils sont publics, ils doivent être confessés publiquement. C'est comme ça. Parce qu'en péchant, le disciple, il couvre Jésus d'opprobre. Pas seulement devant les gens, mais aussi devant le diable. Satan se met à rigoler, il s'amuse. Et les âmes qui sont mal affermies, ils peuvent trouver une pierre d'achoppement dans ce truc-là. Alors, en donnant des preuves de son repentir, le disciple efface l'ignominie, autant que ça dépende de lui, il l'efface, et Jésus lui dit, à ce moment-là, Pierre, as-tu pour moi plus d'amour que tout cela. Pierre se souvient. Et c'est un peu comme dans un film. Il se souvient. Un jour, il avait dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, moi, tu ne seras jamais une occasion de chute pour moi. Ah, maintenant, il se connaît mieux. Il baisse la tête. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Vous avez vu la réponse? Vous voyez, il s'exprime plus, il n'exprime plus un jugement personnel sur la profondeur et la valeur de son attachement par rapport aux autres. Non, non, il est tout caqueux là. Il laisse à Jésus le soin de juger de sa sincérité. Tu sais que je t'aime. Alors Jésus dit, fais paître mes brebis. Et tous continuent à manger. Silence, gênant, dans les vagues. C'est tout ce qu'on entend. Puis on entend, il y en a un qui mange toujours la bouche ouverte. Le cochon de service. Enfin bon. On entend ça, mais rien d'autre. Puis Jésus, d'un coup, il lève la voix et dit, « Pierre, as-tu de l'amour pour moi ?» Pff, il est lourd. Mais est-ce que vous voyez la nuance? Il ne lui demande plus s'il l'aime plus que les autres ne l'aiment. Il ne parle plus des autres là. « Est-ce que tu m'aimes ?» Alors Pierre répond comme la première fois et il dit, c'est que je t'aime. Ça. Et Jésus dit, fais paître mes brebis. Et puis il mange, il continue à manger. Puis, les vagues et tout ça, les petits oiseaux. Poétique tout ça. Hein? Ils regardent tous leurs godasses, hein? Ils sont gênés. Ils se disent, bon, si ça commence par Pierre, peut-être après ça va être nous. Donc ils sont gênés, hein? Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas renié, mais ils ont tous foutu le camp quand même. Hein? Par Jean qui est allé jusqu'au bout. Et Jésus renouvelle sa question. Simon, ah, c'est plus Pierre, Simon, m'aimes-tu? Bon, là, Pierre, on ne peut plus l'affliger, l'abattu. Enfin, il savait quand même que Jésus avait des raisons de se méfier. Donc, voilà, il ne ramène pas sa fraise, il est humble. Alors, Pierre, il lève les yeux, il le regarde, il dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, en se resservant du poisson, fais paître mes brebis. Par trois fois, il avait renié le maître, par trois fois, Jésus lui arrache le témoignage de son amour et de sa fidélité, en enfonçant cette question comme un harpon dans son cœur. Jésus fait ça en public pour que ses frères, c'est de l'amour. Mais il comprend. Est-ce qu'il a compris, Pierre? Il a compris après. Mais sur le moment, il était simplement abattu, épouvanté, et humilié, gêné. Mais Jésus l'a fait par amour, pour que ses frères voient que Pierre, si fanfaron, était devenu humble. Il a fait ça par amour, pas pour le niaxer. Par nature, Pierre, il était ardent, il était impulsif. Et Satan avait profité de ce trait de caractère pour le vaincre. Satan se sert toujours de vos traits de caractère pour vous vaincre. Il n'invente pas des nouveaux trucs. Il se sert de vos trucs à vous. Jésus l'avait averti. Peu de temps avant l'arrestation, Jésus avait dit, « Satan vous a tous réclamé pour vous cribler, comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que tu ne défailles pas. Et quand tu seras affermi, affermis tes frères. » Il n'a rien compris, Pierre. Mais là, le moment était arrivé. Et Pierre avait subi une transformation et c'était visible. C'était visible. Visible aux yeux des frères, c'est ça qui compte. Parce que Jésus, maintenant, il vit dans les frères. Il faut qu'on s'habitue à ça. On ne le voit pas, lui, mais on voit les frères. Avant sa chute, Pierre avait l'habitude de parler sous l'impression des circonstances, il parlait haut et fort, méridional, hein. Il exprimait ses opinions avant même d'avoir vu clair dans les choses, il disait blablabla, comme ça. Et après s'être converti, Pierre était tout autrement. Bon, il gardait quand même son ancienne ferveur, il n'était pas devenu un mollasson, non, mais la grâce de Dieu dirigeait son zèle. Au lieu d'être impétueux, au lieu d'être confiant en lui-même, au lieu d'être vaniteux, il s'est calmé, il était maître de lui-même. Il était devenu même docile, capable de paître le troupeau, en fait. La question que Jésus a adressée à Pierre a une profonde signification. Elle signifie qu'il n'y a qu'une condition à remplir pour être disciple, pour entrer au service du Maître. M'aimes-tu? Si tu m'aimes, tu fais tout ce que je dis. Donc, c'est ça la condition. Ce n'est pas « vends tout et suis-moi ». « Vends tout et suis-moi », c'est seulement pour une personne qui l'aime. Mais la première chose, c'est « m'aimes-tu ». C'est la chose essentielle. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Mais on peut, si on renonce à tout ce qu'on possède, mais qu'on ne l'aime pas, ben on fait comme Ananias et Saphira. On fait la moitié des choses, on ne va pas jusqu'au bout, parce qu'on ne l'aime pas vraiment. On trouve un intérêt, mais pas vraiment de l'amour. Pierre, il pouvait avoir toutes les qualités, il en était plein, il avait beaucoup, mais sans l'amour pour le grand berger, il n'aurait jamais pu être le berger du troupeau de Jésus. Ce n'est pas possible. La connaissance, la bienveillance, l'empressement, l'éloquence, la reconnaissance, le zèle, tout ça, c'est bon, c'est bien, c'est normal, c'est précieux. Mais si le cœur n'est pas rempli d'amour, l'œuvre, elle est vouée à l'échec. C'est ce que 1 Corinthiens nous dit, 1 Corinthiens 13. Un jour, Jésus avait invité Pierre à marcher seul avec lui. Et puis, il lui avait dit, « Pierre, là où je vais, maintenant, tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas me suivre. Mais tu me suivras plus tard. » Pierre avait répondu, « Foufou, mais Seigneur, pourquoi je ne peux pas te suivre maintenant? Mais je donnerai ma vie pour toi !» C'est normal quand on est dans l'ambiance des miracles, dans l'ambiance de... Lui, là, on se sentait sûr de lui, mais il se rendait compte, maintenant, longtemps après, qu'il n'avait pas compris quelle était la hauteur, quelle était la profondeur dans laquelle Jésus allait le conduire. C'était léger à l'époque, mais maintenant il se rendait compte, c'est profond, c'est énorme, c'est beaucoup. Alors Jésus, ils sont là tous les deux, et Jésus lui révèle son avenir. Il lui dit, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu sais ce que tu voulais, mais quand tu seras vieux, ah bon, déjà une chose, il va devenir vieux. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne veux pas aller. Et Jésus avait dit ça pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Puis Jésus le regarde et puis lui dit, suis-moi. Bon, tu ne peux pas me suivre là où je vais maintenant, mais plus tard, tu pourras, tu me suivras. Puis, Pierre suivait l'homme Jésus. Maintenant, là, au bord de la mer, il se rend compte que ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Il a décidé de suivre Jésus le Dieu. C'est différent. Il l'aimait comme homme, maintenant il l'aime comme Dieu. Parce qu'il a appris la profondeur. Et la profondeur attire la profondeur. Maintenant, il l'aime en tant que Dieu. Il est prêt à prendre sa part au sacrifice du Seigneur, parce qu'on a tous à prendre part au sacrifice. On doit ajouter les souffrances dans notre propre corps, les souffrances qui manquent à celles de Christ. Avant, Pierre, il voulait courir, il était zélé, il voulait préparer les choses pour Jésus, il voulait tout organiser pour que Jésus soit content, pour dire, ah, c'est super, t'as pensé, c'est bien, t'as pris l'initiative, c'est super, ouais, c'est bien. Maintenant, il entendait, il comprenait ce que ça signifie, suis-moi, suis-moi. C'est-à-dire, ne cours pas en avant, parce que si tu cours en avant, tu vas devoir affronter tout seul le Satan. Ne cours pas en avant. Laisse-moi aller devant. Ainsi, tu ne seras pas vaincu par l'ennemi. Alors, pendant que Jésus parlait à Pierre de toutes ces choses, eh bien, Pierre marchait, puis il entendait derrière du bruit. Il se retourne, puis il voit qu'il y a Jean qui les suit très discrètement, à 5-6 mètres derrière. On ne peut pas entendre, Jésus parle doucement, Pierre parle doucement, mais quand même, Jean, il aimerait bien savoir, parce que tout ce que Jésus dit, Jean, il aime tellement Jésus, il voulait savoir tout, donc il est un peu jaloux même, un peu, donc il suit derrière, puis Pierre, il le voit, puis il se penche vers Jésus, puis il dit, et pour lui, là, derrière, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Jésus lui répond, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Vous voyez? C'est le devoir de chacun de suivre le Maître personnellement, sans s'inquiéter de la tâche assignée aux autres. Notre avenir, elle est dans les mains de Jésus. À nous de le suivre avec obéissance. Tant que nous travaillons avec la droite, eh bien, il assurera toutes choses pour nous. Combien de personnes s'occupent des affaires des autres de nos jours? Elles s'occupent tellement des affaires des autres et tellement des devoirs des autres qu'elles négligent leurs propres devoirs. Pierre, il l'a compris ce jour-là. Et puis il a écrit plus tard dans sa lettre, 1 Pierre 4, 15, 16, il dit « Que chacun de vous, qu'aucun de vous, pardon, ne souffre comme meurtrier. » Vous êtes chrétien, ne souffrez pas comme meurtrier. Si vous souffrez comme meurtrier, ben, c'est votre faute. Qu'aucun de vous ne souffre comme voleur. Hein? Qu'aucun de vous ne souffre parce qu'il fait le mal. Si tu souffres parce que tu fais le mal, ben, c'est bien fait pour ta gueule. C'est ça qu'il est en train de dire. Hein? Qu'aucun de vous ne souffre parce qu'il se mêle des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien que tu souffres, n'en aie pas honte. N'en aie pas honte. 1 Pierre 4, 15, 16. Notre tâche, elle consiste à regarder à Jésus et à le suivre. La perfection, c'est Jésus-Christ. C'est en contemplant Jésus-Christ que nous sommes transformés. Ce n'est pas en contemplant un frère ou une sœur, ce n'est pas en contemplant un homme, c'est en contemplant Jésus-Christ. En contemplant Jésus-Christ dans le frère, en contemplant Jésus-Christ dans la femme, dans la sœur. Maintenant, Pierre n'a pas été placé à la tête de l'Église, comme une certaine grande prostituée le dit. Pierre, il devait s'occuper non des autres, mais de suivre Jésus lui-même en étant un modèle. Ça veut dire quoi en étant un modèle? Ça veut dire qu'il devait, par sa propre vie, montrer comment ça doit se passer. Par son enseignement, parce qu'il avait reçu le ministère de la parole. Et ça, ce n'est pas tout le monde. Donc, quand il prêchait, c'était la parole de Dieu qui sortait, ce n'était pas la parole de Pierre. Je me rappelle toujours quand j'avais prêché le lavage des pieds, une fois, en Afrique. Et tous les pasteurs me regardaient comme s'ils voyaient un ovni. Et tout à coup, un frère s'est levé, c'était, comment il s'appelle déjà, le costaud là. Il s'est levé et puis il dit, il prend la Bible et il lit le passage sur le lavage des pieds et il dit, parole d'un homme ou parole de Dieu? Parole de Dieu. Maintenant, vous enlevez vos chaussures et vos chaussettes et on va se laver les pieds les uns les autres parce que c'est Dieu qui parle, c'est pas Michel. Vous voyez, Pierre avait cette autorité d'apporter la parole. Et c'est ainsi que Pierre a vécu. Et c'est ainsi que Pierre a vieilli. Un jour, il a écrit, alors qu'il était vieux, aux pasteurs des églises, et il leur dit, « Faites paître le troupeau de Dieu qui est parmi vous. » Faites paître, ça veut dire quoi? Jésus lui avait dit, « Faites paître mes brebis. » Et puis maintenant, c'est lui qui dit, « Faites paître les brebis de Dieu. » Non pas en tant que, comment on appelle ça, premier pape de l'église, non, mais comme un frère qui conseille, comme un frère qui apporte la parole de Dieu. Faites paître le troupeau de Dieu, comme quelqu'un qui a un ancien et qui a une expérience. Faites paître le troupeau de Dieu qui est parmi vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire conduisez-le. Donc, pour conduire un troupeau, il faut avoir une certaine autorité. Une autorité qui doit être reconnue. Si elle n'est pas reconnue, ça ne vaut même pas la peine. Ça veut dire donnez-leur la nourriture. Pourvoyez. Soignez. C'est ça. Tondez aussi de temps en temps. Mais il dit, mais non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Ni pour un gain sordide, mais avec cordialité. Beaucoup maintenant de pasteurs prêchent pour l'argent. C'est particulièrement ça, c'est vrai, particulièrement en Afrique, c'est épouvantable. Vous avez des pays qui se ferment tellement que le témoignage évangélique est mauvais à cause de ces faux prophètes qui prêchent cette espèce d'évangile de l'abondance qu'ils ont tordu. Ils sont devenus cupides. Pierre savait, Jésus savait, il a toujours su que ça viendrait comme ça. Non en tyrannisant ceux qui vous sont échus en partage. Hein, un serviteur de Dieu, il a des gens qui lui sont échus en partage. Ne les tyrannisez pas. J'espère que vous ne vous sentez pas tyrannisé. Mais en devenant un modèle du troupeau. On s'efforce. Pierre, il s'est efforcé. Il a aussi fait des boulettes après. Hein, Paul, un jour, il a même dû l'engueuler parce qu'il a fait une grosse boulette, une fois, vous rappelez. On fait tous des boulettes. Eh bien, c'est à vous de me pardonner comme je vous pardonne. Amen. Et puis comme ça, on peut continuer. Mais sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 5, 1, 4. Voilà ce que Pierre écrivait. Aujourd'hui, ben on a tous mangé, non? Venez déjeuner, avait dit Jésus. Je crois qu'on a bien mangé là, non? C'était une bonne nourriture. La parole de Dieu est une nourriture. voyez, cette page de l'histoire, cette chose qui s'est produite, qui s'est passée là en Galilée, elle a nourri des millions de fidèles. Ça fait 2000 ans qu'on médite sur ces textes et qu'on y trouve notre nourriture. Vous savez, la nourriture, ce n'est pas simplement parce que c'est bon, mais aussi ça se transforme en nous-mêmes. C'est-à-dire que cette parole, elle peut se transformer en vous-même. Elle peut devenir l'inspiration qui va faire que vous allez agir d'une certaine manière, différente de ce que vous aviez prévu avec votre impétuosité, avec votre caractère, mais vous conformant à ce que la nourriture est en train de pourvoir dans votre vie. Prenez donc ce qui vous est donné et puis laissez leur part aux autres. Tout n'est pas pour vous aujourd'hui. Mais prenez votre part. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur Jésus de nous aider à faire ta volonté tous les jours, chaque jour, humblement, nous souvenons toujours que tu es là, que tu nous regardes et que tu nous observes et qu'un jour nous aurons à paraître devant toi. Seigneur, nous savons que nous n'avons pas à avoir peur de cela si nous marchons avec fidélité. Merci Seigneur Jésus de cette assurance que tu nous donnes. Merci Seigneur mon Dieu pour les instructions que tu nous donnes afin que nous puissions marcher, non pas en nous trompant nous-mêmes, mais en étant dans la vérité. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Merci, Jésus. Amen. Nous allons nous lever et nous allons louer le Seigneur ensemble. Alléluia.